Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Nous revenons après quelques petites vacances bien méritées. Et aujourd'hui, nous recevons donc Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Ndi. Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Bonjour.
Ça va.
Bonjour.
Alors, cette émission sera dans le cadre d'un hommage à Daria Dougine, que vous avez connue tous les deux. Avant toute chose, je vais faire quelques propos et nous démarrons notre émission. Alors, le premier propos est Tipeee, soutenez la chaîne, n'hésitez pas, par des petits dons ponctuels. C'est un travail qui est purement, dirions-nous, philanthropique, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Ensuite, nous avons Odyssée, migrer, n'hésitez pas à migrer vers Odyssée, car vous savez bien que sur YouTube, nous sommes régulièrement censurés. Donc, vous pouvez aller sur Odyssée voir les émissions en toute tranquillité. Nous avons le canal Telegram. Telegram, vous pouvez y trouver des recensions d'ouvrages, quelques vidéos diverses et variées, notamment les liens qui vous amèneront vers la chaîne YouTube. Nous avons Instagram. Instagram où je poste aussi régulièrement des photos de bibliophilie, donc d'ouvrages anciens. Et j'aurai aussi le canal Telegram de Marie Souila que vous voyez sur la chaîne et qui fait partie de la chaîne aussi, et qui s'appelle Philanthropiste Librairie, que vous trouvez juste en dessous dans la description. Donc je présente aussi vos deux ouvrages, ce sont vos derniers ouvrages. Donc le tien, Youssef, qui est Le Covidisme et messianisme, que tu as sorti il y a quelques mois déjà.
Novembre 2020,
Oui, novembre.
21.
Donc, aux éditions.
Et en collaboration avec
Partenariat
Strategica, partenariat avec
Strategica.
Strategica.
Et le tien, Pierre-Antoine, qui est tout fraîchement sorti, et dont il y
Oui.
aura une émission la semaine suivante, donc Globalisme et dépopulation, aux éditions Strategica. Et.
Voilà.
Qui se vend très bien d'ailleurs, même le tien, Youssef. Voilà, donc nous pouvons commencer notre émission. Alors, on fait un hommage à Daria Dougine. Vous connaissiez tous deux Daria, qui n'est autre que la fille d'Alexandre Dougine. Donc, Youssef, tu as connu Daria Dougine dans quel cadre? Il me semble dans la dé une délégation, c'est ça?
En fait, je l'ai connue en 2019, début 2019, il y a 3 ans et demi. On s'était rencontrés juste avant un voyage qu'on a fait ensemble en Syrie. Donc, on a fait connaissance, on s'est rencontrés à Paris pour organiser justement ce voyage avec l'initiateur du voyage. Et on y allait avec d'autres auteurs, d'autres écrivains comme Lucien Cerise et d'autres. Et donc voilà, on a fait ce voyage en Syrie ensemble, et c'est là que je l'ai connu. Et puis après, on est resté en contact après ce voyage-là. On s'est revu en Moldavie, notamment avec Pierre-Antoine, dans le cadre du forum de Chisinau. Et donc on a eu des rapports à la fois professionnels, intellectuels et bien sûr amicaux. On a collaboré ponctuellement, on était en contact très très régulier. Elle a traduit plusieurs de mes textes en russe, de certains de mes commentaires en russe aussi. Donc on était en contact assez régulier, ponctuellement, on collaborait. Voilà. Et la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était le vendredi soir, le 19 août. Donc la veille de sa
Elle
mort.
avait.
Voilà, c'est assez particulier de communiquer avec quelqu'un un jour et le lendemain découvrir, parce que moi je l'ai appris comme ça en découvrant les images en fait.
En
Voilà.
découvrant les images, tu peux nous
Les
rappeler
images.
justement dans quelles conditions elle est décédée, dans quel cadre?
Alors, elle était dans sa voiture, elle revenait d'un festival de la tradition, donc elle était avec son père. Je crois que la voiture appartenait en fait à son père, et ils devaient rentrer ensemble donc, dans la même voiture, mais à la dernière minute, Alexandre Douguine a décidé de rentrer avec un ami donc dans une autre voiture, Et donc, ils étaient ensemble sur la même route, Daria toute seule dans la voiture de son père, et Alexandre Douguine dans une autre voiture, juste derrière Daria. Et donc, Alexandre Douguine a vu
sa fille.
Il a vu la voiture exploser.
C'est tragique. Devant lui.
Et donc, voilà les circonstances. Donc, après, on pourra peut-être rentrer dans les détails. Donc, la tueuse en question, l'Ukrainienne. S'était installée dans l'immeuble de Daria, dans un appartement. Elle l'a donc suivi ce jour-là au festival. Je ne sais pas à quel moment elle a placé la bombe, mais voilà, donc elle l'a suivi. Au préalable, elle l'espionnait, c'est-à-dire que voilà, elle l'a suivi pour connaître ses habitudes. Et donc manifestement, d'après ce qu'on sait ou on croit savoir, les deux étaient visés, c'est-à-dire Alexandre Douguin et Daria Douguin étaient visés, et finalement ils ont eu Daria. Voilà.
Toi, Pierre-Antoine, tu l'as très bien connu. Il me semble que c'était une amie.
Ah oui, c'était une camarade d'abord, et puis c'est devenu une amie. En fait, je l'ai connue même quand elle était très jeune encore. Elle étudiait en France. Et je l'ai connue c'était le moment de la manif pour tous, en fait. Donc, c'est 2013, quelque chose comme ça, je crois,
2013,
ou 2012.
Ouais. 2013.
2013, voilà. Et en fait, eh bien, j'étais monté, à l'époque, j'animais le site des non-alignés, j'étais monté à la fois pour la manifestation et à la fois pour assister à une conférence que donnait son père avec Alain de Benoît et mon ami Laurent James. Donc, il donnait cette conférence un peu, on va dire, en parallèle des manifestations. Et donc, j'avais contacté Daria, je ne sais plus par quel biais, sûrement par Internet, par Facebook peut-être, je ne sais plus, pour lui demander si je pouvais interviewer son père, peut-être en parallèle de cette conférence. Je lui avais envoyé les coordonnées du site et tout ça. Et donc, ça l'avait intéressé, et du coup, j'avais réalisé cette interview d'Alexandre Douguin, hein, qui est toujours en ligne, parce que je connaissais bien les travaux de son père, et je m'y intéressais depuis des années. Et puis, en fait, j'ai découvert un personnage, enfin, à l'époque encore très jeune, Daria était très jeune, mais qui était déjà très, très bien formé. Il devait avoir dans les 19 ans, par là, à cette époque-là, je pense. Et en fait, en plus, c'était une ambiance assez particulière pendant la Manif pour tous à Paris. Il y avait un petit peu tous les gens du milieu militant qui étaient là. On jouait un petit peu à la chasse et à la souris avec la police qui essayait d'attraper, et notamment les plus jeunes, et notamment Daria qui avait beaucoup d'amis chez les jeunes militants et qui, en fait, bien, nous, on essayait d'empêcher qu'elle se fasse attraper en tant qu'étudiante étrangère et qu'elle ait des problèmes. Donc, c'était assez amusant, en fait. Et comment dire, voilà. Et je me rappelle d'ailleurs, il y a une photo qui circule sur Internet où on la voit avec Marion Maréchal. En fait, c'est moi qui ai pris cette photo parce qu'on a croisé Marion Maréchal et un autre camarade nous a dit, oh, il faudrait prendre la photo. Et tout. Donc, j'ai pris cette photo comme ça, de manière purement presque anecdotique. Et puis, elle est restée. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous avons continué à correspondre. Et puis, elle a, comment dire, comme elle était très active, eh bien effectivement, on faisait des échanges, des traductions d'articles et autres. Quand ils ont lancé le site Catéchone, j'envoyais des articles ou je traduisais des articles. Après aussi, quand ils ont lancé le site geopolitica.ru, et puis quand elle faisait des passages en France, on se voyait. J'ai une interview avec elle, là, quelques années après. Elle était encore très jeune, mais elle faisait des études de philosophie. Et j'ai mis en ligne cette interview sur la chaîne des non-alignés. Là, je l'ai remise en ligne récemment. Et on voit le niveau qu'elle avait, en fait, parce qu'en fait, elle est connue maintenant surtout comme une militante métapolitique, et puis même maintenant en Russie comme une journaliste, et même une journaliste qui récemment couvrait les événements de la guerre en Ukraine, hein, puisqu'elle est même allée sur le site d'Azovstal, elle est allée sur différents sites comme ça. Donc, elle est devenue, elle faisait en même temps ce travail-là, mais au départ, et elle s'était spécialisée, on va dire, dans la géopolitique, comme son père. Mais avant, comme son père, elle a fait des études vraiment de philosophie et très pointues sur des domaines que peu de gens maîtrisent réellement, le néoplatonisme et puis toute cette époque un petit peu du début du christianisme. Donc, c'était passionnant de discuter avec quelqu'un comme ça. quelqu'un de ce niveau-là. Et je dois dire que, voilà, par exemple, cette semaine, bon, j'ai mis. Enfin, c'est comme disait Youssef, c'est tellement irréel, en fait. Pareil, comme Youssef, je discutais avec elle un peu de temps avant, la semaine dernière. On s'est changé encore des liens, des choses intéressantes pour les différents sites. Et puis, on correspondait. Et puis, après, j'ai appris ça d'un seul coup par des gens de ma famille qui m'ont dit, tu as vu et tout. Et donc, bon. Quand quelqu'un part brutalement, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais on a toujours cette impression bizarre au départ où presque, on a l'impression que la personne est toujours là et qu'on va pouvoir presque lui parler et lui parler presque de ce qui est en train de se passer, quoi, ce qui est complètement absurde. Mais c'est cette impression-là que oui, on sent que, enfin voilà, c'est vraiment une impression étrange. Et puis après cette Après, voilà, après avoir réalisé réellement, bon, ben, enfin, la peine s'installe. Et puis, pour ce qui est le cas ici, la peine et puis enfin, des sentiments très mitigés que je n'ai pas connus avant, puisque là, c'est quelque chose de vraiment une configuration inédite bah, d'une personne qui, en fait, bah, était à la fois une camarade, une amie, et puis qui maintenant, bah, pour moi, enfin, et je pense pour Youssef aussi, ça devient une icône. Ça devient comment dire un symbole national et international et en fait c'est une martyre voilà c'est et en fait on peut se dire moi je me console de la peine que j'ai ou de l'absurdité que je ressens face à cette situation voire même de la rage quoi face aux gens qui ont fait ça de l'idée que maintenant enfin de l'idée que dans notre vie on a pu côtoyer une personne aussi exceptionnelle et qui maintenant est un martyr et qui là où elle est au ciel où elle est va continuer à nous appuyer dans la lutte et on voit qu'en fait on rentre dans quelque chose comment dire c'est sérieux ce que nous faisons, quoi. Cette personne a montré que c'est pas du pinaillement ou des disputes sur Internet ou des choses comme ça. C'est très réel, malgré l'irréel et le virtuel dans lequel nous sommes tous plongés, puisque c'est l'époque qui est comme ça. C'est réel et il y a des morts et c'est la, on va dire peut-être la première. Enfin, c'est pas la première parce qu'il y a eu d'autres militants, mais c'est la première. Oui, la grande victime de cette guerre occulte qui a lieu. Voilà, donc c'est quelque chose de très sérieux. Ça montre que la métapolitique, c'est sérieux, c'est beaucoup plus sérieux en fait que le politique politicienne. Elle a donné sa vie pour ça. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que quand je discutais avec elle ou même quand je voyais, des fois, je me disais, j'avais presque un petit peu, je dédaignais un peu. Je me disais, oui, bon, elle est jeune et puis c'est une jeune fille, alors elle vit un peu dans son monde. Mais en gros, presque moi, alors que j'étais engagé dans les mêmes choses qu'elle, je me disais, ça lui passera un petit peu. Ben, en fait, non, elle était très sérieuse et le destin, la providence a voulu sceller cela de manière définitive. Ce n'était pas un trajet d'une personne, comment dire, qui refusait juste de s'intégrer à la société. C'était quelqu'un qui avait un parcours exemplaire, en fait. Et en fait, c'est ça le vrai militantisme, c'est le vrai, vrai engagement. Voilà. Et là, on touche un peu du doigt. Ben, ce que doivent vivre les gens, je pense, peut-être dans les territoires occupés en Palestine, ou les gens du Hezbollah, ou d'autres gens ailleurs dans le monde où c'est sérieux, où on n'est pas dans quelque chose de virtuel. Donc là, on a une martyre, comme les gens en Palestine ont des femmes martyrs, par exemple. Je pense que c'est de cet ordre-là pour moi.
Youssef, est-ce que tu peux nous rappeler qui est son père, donc Alexandre Douguine, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le personnage?
D'accord. Puis Antoine pourra en parler mieux que moi, mais bon, je connais quand même le personnage que je suis depuis longtemps, depuis le temps passe vite maintenant, une bonne quinzaine d'années, voire plus. Donc c'est un philosophe qui était déjà à l'époque soviétique un militant opposé au communisme, anti-communiste, comme d'ailleurs notre ami Yuri Rochka qui nous a invité au Forum de Kishino en 2019. Yuri Rochka, qui est un ami d'Alexandre Douguine depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Donc Alexandre Douguine était un militant anticommuniste qui était un traditionnaliste, donc à la fois orthodoxe mais aussi guénonien, très inspiré par la pensée de René Guénon, de Julius Evola, avec une culture encyclopédique et une puissance intellectuelle assez rare. Donc, pas seulement en Russie, mais à l'échelle internationale, je pense qu'il y a très peu de penseur de la trempe et de la puissance intellectuelle d'Alexandre Douguin, quelqu'un d'assez visionnaire. On peut retrouver par exemple une interview d'Alexandre Douguin en 1995, il était tout jeune encore, Daria devait avoir 2-3 ans à l'époque, et il disait, les hommes que nous avons, donc on est après l'effondrement de l'Union soviétique, donc on est dans la période libérale. Donc, il avait été anticommuniste, mais il était très opposé aux dirigeants de l'époque, dans les années 90, qu'il qualifiait littéralement de bouffons. Il disait aujourd'hui, les dirigeants que nous avons en Russie sont des bouffons, mais viendra au pouvoir bientôt, il n'a pas donné une date, hein, mais il viendra au pouvoir bientôt de véritables patriotes qui redresseront la Russie. À ce moment-là, le monde tremblera. Donc là, on est en 1995 quand il dit ça, et on est à peu près 2-3 ans après la rédaction d'un livre dont il a reparlé récemment, sur les fondements de la géopolitique, où en fait, déjà au début des années 90, il avait une vision géopolitique en fait eurasienne de reconstruction de la Russie et de récupération par la Russie de ses territoires multiséculaire. Donc Alexandre Douguin est polyglotte, je crois qu'il parle 6 ou 7 langues, et notamment via sa fille, puisqu'il ne faut pas non plus réduire Daria à la fille d'eux, elle était très très active au niveau international, mais je dirais que c'est elle qui faisait d'une certaine façon ce travail métapolitique et de promotion de la pensée de son père, et pas seulement de son père, mais de l'eurasisme. Et quelque part, elle était un vecteur de rayonnement de la culture russe. Et par exemple, il y a quelque temps, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, elle m'avait mis en contact avec un groupe turc, des nationalistes turcs qui ne sont pas sur la ligne d'Erdogan, qui m'avait interviewé sur l'OTAN. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'avais compris à quel point en fait son travail à l'échelle internationale était important. Elle avait des contacts partout, en Italie et ailleurs. Et donc, la pensée d'Alexandre Douguin, lorsqu'on le voit, on a l'impression un peu que c'est un ermite avec sa longue barbe qui doit passer son temps à travailler, eh bien, il était assisté, disons que Daria Douguin, qui avait à la fois une formation en philosophie très, très, très solide, s'occuper aussi des relations publiques pour son père, pas seulement pour son père, mais en fait, pour la promotion de la pensée de son père. Et donc, voilà. Et donc, on peut dire qu'Alexandre Douguin n'est pas non plus ce qu'on en dit dans les médias occidentaux, ce n'est pas le cerveau de Poutine, et ce n'est pas non plus quelqu'un d'insignifiant en Russie. Parce qu'en fait, on a les deux discours maintenant en Occident. On nous dit à la fois il est le cerveau de Poutine, et on nous dit aussi il est insignifiant. Non, c'est quelqu'un qui a une. Pierre-Antoine en parlera mieux que moi, il a une influence réelle en Russie, comme disait un commentateur français, pour une fois quelque chose de pas bête, je pense que dans le cerveau de Vladimir Poutine, il y a surtout le cerveau de Vladimir Poutine. Voilà. Et voilà ce que mais je pense que Pierre-Antoine, moi j'ai jamais rencontré Alexandre Douguin, je connaissais Daria, j'avais des relations continues avec elle, mais j'ai jamais eu de relation avec eux. Alexandre Douguin, alors que Pierre-Antoine, moi par exemple, j'avais pu suivre Alexandre Douguin, ses interviews en français, notamment par Pierre-Antoine, que je ne connaissais pas personnellement à l'époque, mais je suivais en fait le site des non-alignés et j'étais toujours en fait très intéressé par les interviews que faisait Pierre-Antoine parce que c'était un des rares intervieweurs qui avait quasiment en fait le même niveau. Que ceux qui l'ont interviewé, voire le même niveau, voire au-delà. Et j'invite les gens à revoir les entretiens ou l'entretien. Je me souviens d'un entretien, il y avait une petite table entre Pierre-Antoine
Ouais.
et
Ça, c'était
Alexandre.
même Daria qui avait filmé cet entretien,
Voilà,
effectivement.
bah, avec Alexandre Douguin, et l'entretien géopolitique était vraiment d'un très haut vol. Donc moi, c'est aussi par Pierre-Antoine que j'ai pu mieux connaître la pensée de Douguin, parce qu'il allait le chercher. Là où d'autres n'allaient pas le chercher, voilà.
Que peux-tu ajouter, Pierre-Antoine, sur tu l'as bien connu?
Bah, bien connu, je ne dirais pas ça, mais effectivement, bah, par le biais de Daria, j'ai pu lui parler, l'interviewer à plusieurs reprises. Et aussi au forum de Kissino, donc pas celui où on était avec Youssef, mais le précédent où il était présent. En fait, oui, alors tout ce qu'a dit Youssef est très juste, c'est-à-dire que le trajet de Douguin est passionnant à plus d'un titre. C'est vraiment, pour moi, il a aussi, comme sa fille, il a donné les lettres de noblesse à ce qu'on appelle la métapolitique. Et Youssef a raison de préciser le rôle de Daria, et je pense que c'est vraiment pour cela qu'ils ont ciblé à la fois le père et la fille, parce que la fille était vraiment très active, et effectivement, pour faire rayonner cette pensée-là. Je pense que d'ailleurs, elle est arrivée peut-être dans une période où ensuite, elle aurait elle-même sûrement produit ses propres ouvrages, sa propre pensée, mais elle a été vraiment ciblée parce que effectivement, comme il disait, ils ont des liens partout, et en fait, les eurasistes russes ne sont pas, comment dire, il n'y a pas ce défaut qu'il y a en France où souvent les intellectuels sont découplés complètement des activistes, en quelque sorte. Là, ce sont des gens qui ont payé qui payent le prix fort, en fait, de leur engagement. Youssef parlait des eurasistes turcs. Eh bien, je crois que récemment, un ami d'Alexandre Douguin, un contact d'Alexandre Douguin, a été emprisonné en Turquie pour une peine de prison à vie ou je ne sais plus combien, pour justement avoir ouvertement appelé à la sédition et à ce que les militaires turcs quittent l'OTAN. Donc voilà, ce sont des gens, comment dire, qui payent le prix fort pour leurs idées, qui ont à la fois, qui savent déployer une idéologie complexe et très pertinente, et en même temps qui en paye le prix sur le terrain, avec effectivement des connexions à l'international qui sont assez impressionnantes. En fait, bon, ils font, on va dire, avec des moyens qui restent artisanaux face à ce que font les mondialistes, ils essayent de faire du contre-globalisme à une échelle, bon, bien, mais quand des opposants au mondialisme le font, eh bien, voilà, ils finissent écrasés. Mais, et pour la pensée même de Douguin, cette pensée complexe, effectivement, alors il y a plusieurs niveaux. Mm-hmm. Je vois souvent des gens qui vont prendre des parties de cette pensée ou qui vont critiquer certains aspects, mais en fait, ça se déploie sur plusieurs niveaux. Il y a l'aspect spirituel, en fait, qui serait en fait... Alexandre Douguin serait, on pourrait l'appeler ce qu'on appelle un pérennialiste ou un traditionnaliste dans le sens guénonien, c'est-à-dire mm-hmm. quelqu'un qui pense que finalement il y a une tradition primordiale qui a donné forme aux différentes traditions humaines, aux différentes formes spirituelles, et que en fait d'une certaine manière le philosophe peut arriver un petit peu à articuler ces différentes traditions, et qu'en fait ces traditions sont toutes menacée par le même ennemi qui est la mondialisation postmoderne, le globalisme, et le globalisme qui est lui-même le fauné de ce que maintenant appelle, ce que Vladimir Poutine appelle l'Occident politique. Voilà. Bon, et ce qui est intéressant à penser de Douguin, justement, quand on dit qu'il est soit le cerveau de Poutine, ou comme a dit Youssef, soit il est insignifiant, effectivement, les deux sont faux. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne, comme en fait ça fonctionne en Russie, comme dans d'autres pays, ou comme aux États-Unis, même à ce niveau-là, c'est-à-dire il y a des think tanks, il y a des instituts de formation, et il y a des groupes d'influence. Douguin, depuis longtemps, fait de l'influence dans le sens du conservatisme au sens russe, de l'eurasisme, c'est-à-dire de récupérer on va dire la sphère d'influence géopolitique de la Russie. Et pour cela, il a réhabilité toute la pensée géopolitique européenne, hein, et même allemande, et ainsi que les penseurs russes de l'eurasisme de la première période, hein, du XXe siècle. Et il a réactualisé ça dans une synthèse qui permet de... Bah, qui est une synthèse anti-mondialiste. Et en fait, qui est avec cette idée derrière, sous-jacente, de multipolarité. Multipolarité qui est à la fois géopolitique et qui est aussi, on pourrait dire, psychopolitique ou spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des aires civilisationnelles Le monde peut être organisé en différentes aires civilisationnelles, ça reprend les principes de Carl Schmitt, et ces grands espaces, d'ailleurs, grosse Rome, comme disait Carl Schmitt, eh bien, ces grands espaces sont aussi des grands espaces spirituels ou traditionnels qui doivent en fait protéger leur intérêt spécifique et qui peuvent en fait. Alors, c'est là que, par exemple, des Français pourraient ne pas être d'accord avec la pensée de Dugin, c'est-à-dire que ce n'est pas un nationaliste au sens maurrassien, ou c'est quelqu'un qui pense que le nationalisme, en fait, l'ordre mondial établi sur les principes du traité de Westphalie, avec l'État comme l'État-nation comme critère ultime presque des relations internationales, ne tient plus. Et en fait, c'est la suite de la pensée de Carl Schmitt qui essayait de trouver comme quelque chose qui est intermédiaire entre les États-nations qui n'arrivent plus à être à la mesure de la mondialisation et l'unipolarité, le globalisme qui veut tout unifier de force. Donc, on cherche un troisième terme, et ce troisième terme qui correspond en plus à l'espace naturel de la Russie, c'est cette idée de grand espace avec l'influence de la puissance russe sur son grand espace à elle. Et en fait, un monde organisé en plusieurs grands espaces, ce sont les idées des géopolitologues allemands hein, du début du XXe siècle, Karl Haushofer et d'autres, le monde organisé en pan-région. Voilà. Mais alors on pourrait dire ça correspond à certaines visions qu'ont aussi certains mondialistes, c'est-à-dire d'un ordre mondial. Mais sauf que la différence, on pourrait dire, c'est que
ça rappelle 84 un peu.
Alors, ça rappelle aussi 84. La différence dans cette vision-là, c'est que chaque pôle, comment dire, défendrait aussi sa spécificité culturelle. Enfin, non seulement ses ressources stratégiques, mais aussi sa spécificité culturelle et même ethnique, même pluriethnique hein, dans le cadre de la Russie. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Je pense, pour ma part, qu'effectivement, il y a une multipolarité qui peut être une multipolarité globaliste, qui est en fait celle qu'aimerait arriver à construire certaines parties des globalistes, notamment celles qui sont en lien avec la Chine. Mais je pense que dans la vision de Dugin, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été frappé, c'est qu'il est vraiment une vision tout de même conservatrice et anti-moderne de cette multipolarité. Voilà, ça aussi, c'est un autre aspect, c'est qu'on va dire, y a Dugin, mais avec Dugin, il y a d'autres gens qui travaillent. En fait, il faut comprendre qu'en Russie, c'est ça la particularité par rapport à chez nous. Il y a des luttes d'influence en permanence, mais le pôle conservateur est un pôle influent. Mais il y a aussi le pôle transhumaniste, le pôle, comme a parlé aussi Youssef dans son dernier article sur notre site, il y a un pôle cybernétique en quelque sorte. Il y a des gens qui sont vraiment pour la transformation de la société russe sur un mode de grande réinitialisation à la chinoise ou à l'occidentale, mais version russe. Mais il y a aussi un pôle qui, constamment, par exemple, pendant le covidisme, qui a aussi été appliqué en Russie, mais beaucoup moins suivi par la population et du coup même par des étages intermédiaires de l'État, eh bien, des pôles influents qui ont continué à critiquer ça et à être contre le covidisme. Des pôles qui, à l'heure actuelle, dans la guerre en Ukraine, disent « Attendez, là, on ne peut pas, enfin, le pouvoir ne va pas assez loin dans le sens de l'information de la population sur ce qui se passe. » Et en fait, on voit quelque chose, c'est qu'on a l'impression que la Russie est obligée de réagir à ce qui se passe. Il y a un pôle comme de gens qui sont influencés par des Dougins et d'autres qui essayent de pousser à ce que la Russie devienne réellement antagoniste avec le mondialisme. Et puis après, il y a les libéraux qui traînent des pieds, et puis même la cinquième colonne et les transhumanistes et les globalistes internes à la Russie qui, eux, disent non, on veut pas de ça. Et même certains, ça c'était le cinéaste Nikita Mikhalkov, qui fut un temps encensé en Occident et qui maintenant est vilipendé, qui fait des émissions de type, en fait des émissions comme vous feriez vous, mais sur la télé russe. Donc ça c'est intéressant, sur la télé russe par exemple, c'est un bon exemple de ça. Vous voyez, vous avez des choses qui sont de l'ordre de la télé poubelle comme chez nous, ou comme ça rappelle la télé berlusconienne un peu, et au milieu des émissions très politiques et de gens qui sont complètement anti-mondialistes et qui vont expliquer même des choses qui vont en fait sommer même le pouvoir, c'est ce que faisait Mikhalkov à l'époque, de dire mais vous ne pouvez pas tolérer à la fois une chose et l'autre. Voilà. Même Dugin lui-même avait écrit un livre qui s'appelait « Poutine contre Poutine », en montrant les contradictions internes. Mais en même temps, moi c'est la manière que j'ai de l'analyser, après je ne sais pas si c'est complètement exact, je me dis le pouvoir central doit gérer différentes influences, il est, et en fait il doit être réaliste, c'est-à-dire que il doit... l'ADN de la Russie, son mythe fondateur, c'est la Troisième Rome. Bon, ça, c'est tout ce pôle conservateur autour de Douguine, autour du site Katekon, autour de la chaîne Tsargrad, ça. Tous des gens très influents, des oligarques qui peuvent soutenir ça. Et puis, il y a le pôle hyper-libéral qui tient malheureusement la finance. Par exemple, le directeur de la banque Sberbank en Russie, qui lui tient et vraiment dans des, qui fait des, il réalise des publicités, des choses qui sont dans le, c'est du Klaus Schwab quoi, c'est la grande réinitialisation version russe. Le problème c'est qu'il tient la principale banque russe et donc voilà. Donc si vous êtes le pouvoir central, bon ben vous pouvez être patriote, mais vous savez que la troisième Rome ça ne se mange pas. Donc du coup c'est, vous devez gérer les deux et au milieu une masse de gens qui va être plus naturellement plus patriote que chez nous. Mais qui, comment dire, qui peut être influencé par un pôle ou un autre. Voilà. Donc, c'est un équilibre complexe quand même, surtout quand vous êtes en guerre, pas juste en guerre sur un territoire ennemi, mais là, en guerre globale, en guerre hybride contre l'Occident politique. Donc, c'est quand même un équilibre compliqué. Et ce qui est intéressant, si je finirais peut-être là-dessus, c'est que autant Alexandre Douguine que Daria avaient vraiment la conscience aiguë de la mission en fait de leur pays par rapport à la situation globale et en fait la mission notamment par rapport aux gens comme nous, c'est-à-dire aux gens de tradition qui essayent de ne pas sombrer dans le ventre du Léviathan. Voilà. Donc eux ils voyaient vraiment la mission de la Russie aussi comme une mission mondiale. Et je pense que c'est vrai parce que maintenant la dernière force qui continue à s'opposer, c'est non pas toute la Russie elle-même, c'est ces secteurs conservateurs au sein de la Russie qui maintenant sont attaqués et ont été attaqués et ont été frappés à mort. On a tenté de les frapper à mort, mais ils ont raté en quelque sorte leur cible puisque Alexandre Douguine est toujours là et sa fille maintenant est une martyre qui éclaire la voie de tous les traditionnalistes révolutionnaires du monde entier.
C'est important. Donc, ce sera certainement le mot de la fin. C'est une courte émission. Youssef, peut-être que tu veux rajouter quelque chose ou Pierre-Antoine ?
Youssef, peut-être.
Oui, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur les attaques contre Daria Douguine après sa mort. Parce que là, si on est aujourd'hui là, en train d'en parler, c'est aussi pour contrebalancer la propagande occidentale la concernant et oui. Concernant son père. Donc, j'ai pu voir l'infâme Bernard-Henri Lévy, l'ignoble média BFM TV, etc., qui répétait en boucle, et bien sûr, I24 News, où on entend des gens qui nous expliquaient que Daria Douguine et son père étaient des nazis, des fascistes et des nationalistes. Il faut, bon, comme l'a expliqué Pierre-Antoine, c'était des eurasistes, pas des nationalistes. Alexandre Douguine considérait que la Russie était un espace civilisationnel et non pas un État-nation, puisque c'est une fédération avec des ethnies, des religions différentes. Et là, on est vraiment dans l'inversion accusatoire, puisque Bernard-Henri Lévy est l'allié des nazis en Ukraine. C'est probablement une émanation de ce nazisme appuyé par l'OTAN qui a assassiné Daria Douguine. Et je précise que la femme qui l'a assassinée a été réfugiée politique en France. Elle a quitté l'Ukraine le 22 février, deux jours avant l'intervention russe. Elle est venue en France, elle a eu le statut de réfugiée politique, puis elle est repartie, etc. Donc, on a en fait des néo-nazis ukrainiens appuyés par l'OTAN qui sont probablement les auteurs de ce meurtre. Voilà, donc... ces gens-là, y compris Bernard-Henri Lévy, ont beaucoup de sang sur les mains et il faudra qu'un jour ils soient jugés et punis très sévèrement.
Très bien. Donc, ce sera le mot de la fin, messieurs. Donc, toutes nos condoléances à son père, Alexandre Douguine. Je rappelle vos deux ouvrages. Donc, nous avions Covidisme et Messianisme, paru aux éditions KA en collaboration avec Strategica. Et tout fraîchement sorti, Globalisme et des populations, de Pierre-Antoine Plaquevent, paru aux éditions Strategica, dont vous verrez l'émission la semaine suivante. Nous verrons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Je vous remercie, messieurs, d'être venus sur la chaîne une nouvelle fois. Et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Merci.
Au revoir.